Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, nouveau récit d'opération, en tout cas de vie militaire, en partenariat aujourd'hui avec l'École de Guerre Terre, où j'ai le plaisir de recevoir le commandant Sébastien, donc bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors vous êtes commandant, vous êtes, désormais vous êtes à l'École de Guerre Terre, mais vous étiez dans les troupes de marine, vous étiez parachutiste, et vous avez notamment été déployé, alors ça fait un moment, ça fait bientôt 10 ans, en Afghanistan. Je crois que c'est en Afghanistan, à la fin de votre déploiement en Afghanistan, que se situe l'histoire, le souvenir que vous allez nous raconter aujourd'hui.
Oui, donc effectivement, j'ai été déployé en Afghanistan pendant 6 mois, d'août 2010 à février 2011, et le souvenir que je souhaite partager aujourd'hui avec vous, effectivement, est l'une des dernières missions, la dernière mission que j'ai réalisée avec mon équipe d'OMLT et la compagnie afghane avec laquelle j'étais binommé.
Alors c'est quoi OMLT ?
Alors les OMLT, c'est Operational Mentoring Liaison Team. C'est un acronyme anglais pour dire équipe de mentorat et d'une compagnie afghane. Donc on était 9 Français.
C'est-à-dire que vous les formiez, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais, on était à la fois chargé de l'instruction, instruction technique, instruction tactique, et de l'accompagnement au combat. Donc les deux facettes de la mission étaient celles-ci. On était donc nous 9 Français, et la compagnie afghane, c'était environ une centaine de soldats. Donc sur un poste de combat avancé à l'extrémité est de la vallée d'Alassai, pendant 6 mois, on vivait avec eux, intégrés dans la compagnie afghane.
Et c'est qui ces soldats afghans? C'est-à-dire, vous les prenez alors qu'ils viennent d'être incorporés, ou c'est déjà des militaires qui sont militaires et que vous essayez de faire en quelque sorte passer à un niveau supérieur de capacité opérationnelle? C'est quoi votre rôle de formateur? C'est-à-dire, ça commence où et ça s'arrête où, quoi?
Alors, cette compagnie afghane, moi, quand je suis arrivé en Afghanistan, elle était déjà déployée sur le poste de combat dont je vous parle. J'ai été déployé sur le COP de Belda, du nom d'un caporal-chef du 27e BCA qui était décédé en Afghanistan en 2009. Donc eux, ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà mentorés, on va dire, par une équipe de Français, de 9 Français que j'ai relevés. Donc je les ai récupérés sur place. Ces soldats, il y avait un peu de tout dans cette compagnie. Il y avait des soldats très expérimentés, des cadres très expérimentés qui faisaient la guerre en Afghanistan depuis une dizaine d'années. Et puis des soldats plus jeunes, incorporés plus récemment. Mais nous, on ne participait pas au processus d'incorporation de ces soldats ou de formation initiale de ces soldats. Ces soldats, on les prenait comme ils étaient quand on arrivait sur notre poste de combat. Et on s'assurait que l'instruction de base avait été délivrée à tout le monde, et on essayait d'augmenter leur niveau, leur capacité technique et tactique tout au long de nos 6 mois de mission, donc à travers le maniement d'armement, des nouveaux procédés qu'on leur expliquait pour lutter contre les IED, on les instruisait sur le sauvetage au combat.
Donc les IED, donc c'est les engins improvisés,
les mines placées sur les routes, dans les bas-côtés de chemin.
Mais alors, juste, on va passer à l'épisode en particulier, mais simplement par curiosité, j'imagine que l'armée afghane, elle n'est pas équipée exactement comme l'armée française. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une sorte de symbiose entre le soldat, ses équipements, ses matériels, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas en faire, etc. Et j'imagine que l'armée afghane, alors même si elle était largement équipée par les Américains, par les armées occidentales, j'imagine que c'est pas exactement en tout cas les mêmes équipements, et que d'une manière générale, il doit pas y avoir le même niveau de sophistication des équipements que les armées occidentales. Donc, en quelque sorte, c'est facile, ou est-ce qu'il faut se réadapter? Est-ce qu'il faut, envisager le métier depuis un autre point de vue, en se débrouillant, en bricolant un peu? C'est-à-dire, quel est le niveau de transposition de ce que vous savez faire avec les matériels d'une autre armée potentiellement inférieure?
Alors, ben, réponse en deux temps, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. Effectivement, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes armements que nous. Donc, nous, on a dû se former notamment sur la Kalachnikov, sur le PKM.
Ils ont des Kalachnikov.
Oui, bien sûr, ils en avaient. Ils avaient aussi de l'armement américain, effectivement. Ils avaient des véhicules américains. Donc, nous, on s'était formés, non pas sur les véhicules américains qu'on avait un petit peu abordés en formation, mais très peu, mais surtout sur les armements qu'ils servaient, et on pouvait leur délivrer de l'instruction technique sur ces armements. Donc ça, c'était le premier côté. Le second aspect, effectivement, nous, on avait des matériels beaucoup plus sophistiqués, et je vous avoue qu'on ne leur expliquait pas comment s'en servir, puisque de toute façon, ils n'allaient pas avoir à se servir de nos propres matériels. En revanche, nos matériels sophistiqués, notamment nos matériels de vision nocturne, nos matériels de transmission, certains de nos armements, on s'en servait évidemment dans les combats avec eux pour leur apporter la supériorité du feu, pour pouvoir appeler des renforts aériens, puisqu'on était les seuls à avoir des radios qui permettaient de communiquer avec les avions de chasse, par exemple. Donc c'est en cela qu'on les appuyait au combat et qu'on leur apportait des capacités supérieures à celles dont ils disposaient initialement.
Mais c'est intéressant parce que par ailleurs, on va en parler, mais l'idée qu'ils se forment et qu'ils apprennent avec cet élément de supériorité-là, l'idée que cet élément-là disparaisse un jour, enfin, on voit le problème que ça peut créer en aval. Mais alors, passons peut-être à l'épisode. Donc, c'est avec cette compagnie donc, que vous formiez en continu, et vous nous avez dit donc, que vous participiez, aussi, enfin, vous sortiez en opération avec eux, quoi, vous étiez complètement intégré.
Oui, depuis 6 mois, effectivement, on avait en gros effectué une soixantaine de missions ensemble. Donc une soixantaine de missions différentes tout autour de notre poste de combat. Alors pour replacer un tout petit peu les éléments de contexte, moi j'étais sur un poste très isolé, dans la vallée d'Al-Assaï, et mon rayon d'action, il dépassait rarement 5 à 7 kilomètres de mon poste de combat. Déjà parce qu'on n'avait pas toujours les capacités pour pouvoir aller au-delà, que les Afghans ne souhaitaient pas s'éloigner.
Mais ce que j'allais dire, c'est ça se fait à pied, ça se fait en...
Oui, alors nous on avait 3 VAB pour mon équipe, donc on était 3 dans chacun de nos véhicules.
Rappelons, c'est les véhicules de l'avant blindé.
Voilà, c'est ça, des véhicules d'infanterie armés d'une 12-7 pour 2 d'entre eux et d'un canon de 20 pour le 3e. Et eux, ils avaient des Humvee américains. Ils en avaient, comme ça de mémoire, une quinzaine pour la compagnie.
Mais ce qui correspond à peu près aux fonctions du VAB dans les armées françaises, c'est à peu près l'équivalent.
À peu près. Et la plupart du temps, on se déployait avec les véhicules en appui et les 3/4 de nos missions se faisaient à pied. Donc dans un rayon, on va dire, maximum de 5 km. Et encore, dans toutes les directions, on n'allait pas à 5 km. Et justement, pour cette mission, vous verrez que l'action s'est passée à 300-400 mètres de mon poste de combat.
Alors, vous n'alliez pas plus loin dans certaines directions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des villes... Parce que c'était pas clair, il y avait des villages où ça pouvait devenir très rapidement très dangereux,
ou
simplement parce que vous sortiez de la vallée et que c'était plus votre PM. Non, c'est parce que...
Parce que clairement, les Afghans ne voulaient pas, les soldats afghans, le capitaine afghan que je mentorais, me disait, moi je ne franchirai jamais telle route parce que je sais très bien que dès qu'on va mettre le pied de l'autre côté de cette route, on va se faire attaquer, c'est une certitude absolue.
Donc c'est déjà en fait dans une phase de, en quelque sorte, restriction des capacités d'action des armées occidentales, etc. Enfin, c'est bien après le surge, bien après, c'est déjà dans la logique de désengagement large des armées occidentales, c'est déjà le moment où, pas les armées perdent du terrain, mais en tout cas perdent de la liberté d'action au sein du territoire afghan.
Alors nous, on essayait justement de maintenir cette liberté d'action, et le but de toutes les missions que l'on faisait, c'était de montrer aux soldats afghans qu'ils pouvaient librement se déplacer dans chaque endroit de la vallée. Maintenant, de manière très concrète, évidemment, c'était pas concrètement le cas. Au jour le jour, il y avait bien sûr des endroits dans lesquels on savait très bien qu'à partir du moment où on allait rester plus d'une demi-heure, plus d'une heure dans tel ou tel village, on serait attaqué, on le savait. On le savait néanmoins, moi, l'une de mes marottes, c'était de dire au capitaine, il faut quand même y aller pour montrer à la population que justement, vous ne reculez pas et que votre liberté d'action, vous essayez de la garantir.
Mais alors, une attaque, on va en reparler, on délaie toujours l'épisode parce que c'est vraiment intéressant comme ce que vous nous décrivez, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une attaque ? C'est quoi ? C'est des rafales de Kalachnikov qui passent quelque part ? Est-ce qu'on classifie ça comme une attaque ? Est-ce que c'est des engins, des grenades ? Enfin, c'est-à-dire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'armes, on sait que ça tire souvent aussi dans ces régions-là et dans ces contextes-là. À quel niveau est-ce qu'on considère que c'est une attaque, quoi ?
Alors ça, c'est une question qui est extrêmement complexe. Je pense qu'il y a effectivement, moi j'ai vécu différents types d'attaques, on va dire. Et au tout début, quand je suis arrivé en Afghanistan, les premiers coups de feu, pour moi, c'était une attaque. Et puis, finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois qui s'égrènent...
Au bout d'un moment, l'attaque, ça commence au bataillon ennemi.
Ouais, c'est pas tout à fait ça, on va pas exagérer. Mais effectivement, nous, la nuit, quand on était harcelés, les premières semaines, on se réveillait tous... On se levait, branle-bas de combat pour tout le monde, et pendant des heures, on surveillait, alors qu'en fait, on s'était juste fait harceler en pleine nuit. Bon, au bout de quelques semaines, j'ai dit à mes hommes, on tiendra pas. On tiendra pas si on se réveille toutes les nuits, tous ensemble. À partir du moment où on se fait juste harceler avec quelques coups de feu dans la nuit, on va considérer que ça, c'est rien, quoi.
Oui, s'il suffit d'un mec avec une kalachnikov pour mettre tout le monde en alerte générale, ça va être fatigant.
Voilà, quoi. C'est ça. Alors, mais une attaque, là, pour le coup, celle dont je vais vous parler, c'est une attaque qui a duré plusieurs heures. Pendant laquelle on était sous le feu pendant plusieurs heures. Donc là, effectivement, avec nous, on était une cinquantaine de soldats, cinquantaine de soldats afghans, une dizaine de soldats français déployés donc sur le terrain, face à une quinzaine en gros d'insurgés, mais qui nous ont attaqués un peu de toutes parts. Et qui, pendant plusieurs heures, ont véritablement compliqué la mission et le désengagement et le retrait sur le poste de combat.
Bah du coup, parlons-y, allons-y enfin. Voilà. C'est-à-dire, c'était où cette mission ? Est-ce que c'était... Ben non, vous nous l'avez déjà dit. C'était pas en limite de zone, en limite de bande de votre rayon d'action. C'était assez proche de votre poste de commandement.
Alors c'était très proche de mon poste de commandement. C'était au nord de mon poste de combat. Et c'était environ à 500 mètres de mon poste de combat. Il y avait un axe majeur qui traversait la vallée d'Al-Assaï, sur laquelle on avait décidé, depuis plusieurs semaines, on en parlait avec le capitaine afghan, il avait fallu faire beaucoup de pédagogie pour qu'il accepte de se rendre sur cet axe, pour faire un contrôle de zone, établir un checkpoint, contrôler les véhicules et les personnels qui venaient des vallées adjacentes d'Hassanabad et de Shpe. Donc ceux qui connaissent l'Afghanistan pourront regarder une carte, et c'est des vallées qui sont assez connues et qui sont, elles, pour le coup, identifiées comme des refuges pour les talibans. Et donc on voulait simplement montrer à la population qu'on viendrait sur cet axe, qu'on fréquentait assez peu, qu'on contrôlerait les véhicules et les personnes qui se passent à la recherche de quoi ? D'armement, tout simplement, et puis montrer que l'armée afghane était là au service de sa population. Donc cette opération, on l'avait montée depuis plusieurs semaines. Il avait fallu convaincre à la fois le capitaine afghan et sa hiérarchie qu'on pouvait y aller, quand bien même c'était une zone qui était dangereuse et qu'on le savait, il fallait y aller. Et il avait...
Parce que eux, la réflexion derrière, c'est on n'a pas envie de risquer. C'est-à-dire pour une vallée qui est déjà pas perdue, mais en tout cas qu'on contrôle vraiment pas, on n'a pas envie de risquer des hommes et des matériels, quoi.
Très clairement. Très clairement, lui, il disait, bon, moi, je vois pas l'intérêt. Là, on va rester sur le COP. On est fatigué. Ça fait des mois et des mois qu'on sort très régulièrement. À quoi bon ? Et moi, justement, tout l'intérêt était de dire... Moi, je m'en allais quelques jours après du poste, et je savais que les phases de relève étaient forcément des phases pendant lesquelles l'activité serait un peu moins dense. Donc, je lui avais expliqué, il faut qu'on le fasse à ce moment-là, parce qu'ensuite, on ne pourra plus, je vais être relevé, les Français qui vont venir prendre ma place vont devoir s'habituer à vous, à la zone, connaître les techniques ennemies, donc ils vont faire des opérations de moindre ampleur. Donc, il faut absolument qu'on le fasse, c'est maintenant ou jamais. Et lui, effectivement, avait un peu du mal à comprendre ce capitaine. Il me disait, mais on va aller risquer encore nos vies, vous allez risquer les vôtres également pour pas grand-chose. Alors que moi, je lui expliquais, justement, à force de petits renoncements, vous n'y arriverez plus du tout. Et vous n'irez plus jamais, vous reculerez et vous irez de moins en moins dans les villages.
Et du coup, ça pose la question de l'ambiance, d'une manière plus générale, avec la troupe afghane. C'est-à-dire, alors, là on voit que c'est entre les commandants qu'il peut y avoir des tensions, mais ce qui est logique quand chacun a des intérêts potentiellement divergents. Mais d'une manière même générale, quoi. C'est-à-dire avec deux troupes qui, a priori, parlent pas tellement la même langue.
Oui, bien sûr, non, on parlait pas du tout la même langue. Moi, j'avais un interprète à chaque fois que je partais en mission, donc un interprète qui vivait avec moi, qui vivait en permanence avec moi sur le poste de combat. Dans tous mes échanges avec le capitaine afghan, moi, je parlais en anglais avec mon interprète. L'interprète parlait en dari avec le capitaine afghan, et on se retranscrivait les éléments
donc
comme ça.
Vous faisiez pas des soirées tous ensemble?
Eh bien, moi, j'essayais quand même de passer souvent des soirées avec le capitaine afghan pour tisser un lien malgré la barrière de la langue.
Mes
soldats avec les soldats afghans, c'était plus difficile. Alors on essayait, bien sûr, parce que les uns prenaient quelques mots de dari, les autres quelques mots de français, quelques mots d'anglais, pour pouvoir partager, mais c'était pas simple. Et puis pour revenir sur le fond de votre question, effectivement, Eux, ils étaient là depuis une dizaine d'années. Alors, pas spécifiquement sur le COP, mais ça faisait 10 ans qu'ils se battaient. Ils voyaient les choses évoluer assez peu ou assez lentement. Et nous, on était là pour 6 mois. Et on voulait les aider au maximum. On voulait leur donner les moyens et puis les capacités de se battre au maximum, pour les autonomiser au maximum. Parce qu'on savait que nous, notre durée de mission était courte. Donc, on essayait de faire le maximum en 6 mois. Et ça, ces deux tempos opérationnels étaient souvent difficiles à mettre en coordination, on va dire.
Donc, voilà. Et donc ce jour-là,
on part.
Donc vous partez et ça se manifeste comment ? C'est-à-dire, vous le sentez venir, l'attaque, ou vous faites prendre complètement ? C'est-à-dire, c'est toujours facile d'y repenser a posteriori, mais est-ce qu'il y a après coup, est-ce qu'on se dit, il y avait une ambiance, il y avait un truc ce jour-là, quoi.
Bah, après coup, bien sûr. Sur le coup, on était attaqué régulièrement, donc on savait qu'on pourrait être attaqué, mais spécifiquement sur le coup, je me suis pas dit, tiens, spécifiquement, dans 10 minutes, là, il va se passer quelque chose. Non, mais après coup, bien sûr, on y repense. On se dit que dans la préparation, il y avait plusieurs voyants qui étaient au orange. Mes hommes eux-mêmes me disaient, est-ce que c'est pas la mission de trop, là, mon lieutenant, on va repartir pour la énième et énième fois, dans quelques jours, on s'en va, on a fait le boulot, là. Les Afghans, pareil, me disaient ça, donc j'étais un petit peu tout seul. Donc là, il y avait quelques voyants orange. Le matin, tout s'est passé normalement, on a quitté notre poste de combat en véhicule jusqu'à un point de regroupement des véhicules où on a débarqué, et on a poursuivi les quelques centaines de mètres à pied. Et on a mis en place notre checkpoint. En gros, il était 8h du matin. Et jusqu'à 9h30 du matin, tout s'est bien passé. On a contrôlé 25-30 véhicules de mémoire et puis environ 200 personnes à pied. Tout se passait très bien. On avait quelques indices. Les Afghans, comme mes soldats, me disaient « On observe des gens qui nous regardent, des gens qui téléphonent autour de nous. » Mais ça, c'était systématique en Afghanistan, donc pas une ambiance plus particulière que les autres missions, que les autres jours. Et face à ces gens qui nous regardaient, qui pouvaient téléphoner, on savait très bien que parmi eux, il y avait forcément des gens mal intentionnés. Mais beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de familles. Donc on n'a pas voulu faire de warning shot, on n'a pas voulu envenimer tout de suite la situation. J'ai essayé de la garder sous contrôle dans un premier temps. Et puis, aux alentours de 10h du matin, comme c'était prévu initialement sur les ordres, on décide de rentrer sur le COP. En disant, vous voyez, c'est pas très ambitieux comme mission. En gros, oui, on a contrôlé de 8h à 10h du matin. Il ne
s'agissait pas de prendre le contrôle de la vallée.
Pas du tout.
Et si quelqu'un voulait passer, il aurait juste pu attendre que vous
bien
vous
sûr,
en alliez.
Bien sûr, c'était juste montrer notre présence symboliquement sur un axe sur lequel on allait extrêmement peu, sur lequel personne ne mettait les pieds, que ce soit des soldats français ou des soldats afghans. Et bien sûr, comme toujours, au moment du désengagement, ouverture du feu est là. On passe d'une situation extrêmement calme à une situation totalement chaotique. Avec, pendant deux heures, en gros, on est sous le feu. On n'arrive pas à rejoindre notre point de regroupement de véhicules, que ce soit nous, les Français, ou les Afghans.
Vous aviez laissé les véhicules de côté.
Voilà, c'est ça, une centaine de mètres. Alors, les véhicules, eux, pouvaient nous appuyer par le feu pour nous aider à nous désengager. Mais en gros, les ennemis, les insurgés autour de nous, les talibans, étaient entre 50 mètres et 600 mètres. Ça tirait dans tous les sens, dans toutes les directions. Et pourtant, ça faisait 6 mois qu'on était en coordination avec cette unité afghane. On avait mis en place des procédés. Et ce jour-là, 2 blessés afghans, dans les 2 premières heures de combat, 2 blessés afghans graves par balle. L'un est blessé à l'épaule, l'autre est blessé au bras. Donc forcément, ça tire de partout. On est imbriqué avec l'ennemi. Moi, évidemment.
Et quand ça tire de partout, c'est-à-dire juste très concrètement, vous vous abritiez derrière quoi à ce moment-là ?
Derrière des cailloux, derrière des murets. En Afghanistan, il y a beaucoup de petits murets construits aux alentours des maisons. Donc on s'abritait derrière des murs, derrière des petits murets.
Si ça tire dans tous les sens, aussi bien vous prenez une balle dans le
dos. Alors quand je vous dis dans tous les sens, on avait quand même une partie donc au sud de nos positions qui, elle, était tenue par l'ennemi. Mais en gros, à 180 degrés, on était à moitié encerclés. Et puis, en plus,
ils
n'avaient
pas réussi à vous prendre un revers.
Non,
quoi.
Pas complètement. Non, pas complètement. Ça, c'était pas possible lié à la géographie des lieux et puis au fait que notre poste de combat était quand même en hauteur. Donc lui, il était tenu, mais à 180 degrés, on avait des tirs qui venaient de 180 degrés. Au milieu de ça, donc 2 blessés afghans, on n'arrivait pas à rejoindre nos véhicules. Bien sûr, 2 éléments sont venus complexifier cette affaire. La première, c'est que à ce moment-là, j'avais perdu la liaison radio avec mon chef d'OMLT, qui lui était à une dizaine de kilomètres sur une base donc à Tagab.
Les problèmes volent en escadrille.
Les problèmes volent en escadrille, effectivement, le président Chirac avait raison. Donc j'avais pas la liaison radio avec lui. Je l'ai récupéré au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Lui, évidemment, était, je vous cache pas, furax, totalement furax, parce que pendant trois quarts d'heure, il était totalement aveugle sur ce qui était en train de se passer. J'avais pu lui annoncer qu'on était sous le feu, mais ensuite, j'avais perdu la liaison radio. Ensuite, la deuxième chose qui est venue complexifier les choses, c'est que l'on ne pouvait pas bénéficier, ce dont on bénéficiait quasi systématiquement, d'appui artillerie ou d'appui aérien, étant donné qu'on était tellement imbriqué avec l'ennemi qu'on ne pouvait pas bénéficier de ces appuis. Les Afghans, eux, savaient qu'on était spécifiquement là pour ça, pour ces moyens dont eux ne pouvaient pas bénéficier en autonome. Et il était en permanence, le capitaine, pendant les deux heures de combat, en train de me dire « Mais où sont les hélicoptères? Où sont les avions de chasse ?» Je lui dis...
Oui, alors, artillerie, on peut comprendre... Ouais. Parce que, enfin bon, pareil, on a fait une chose avec un de vos camarades d'artilleur qui nous expliquait qu'il y a une telle dispersion, quoi qu'il arrive, des tirs d'artillerie. Donc on comprend bien que ce serait vraiment très très dangereux. Avion de chasse, on peut comprendre aussi la vitesse à laquelle il passe, mais pourquoi vous ne pouviez pas avoir d'hélico?
Non, il n'y en avait pas de disponible à ce moment-là, spécifiquement sur ce moment. Moi, je n'ai pas pu le savoir. Est-ce qu'ils n'étaient pas disponibles? Est-ce que, je ne sais pas, mes comptes rendus peut-être avaient
mais
été...
Mais bon, ça aurait été l'outil du moment, quoi.
C'eût été, sans doute, ce qui aurait fait basculer le combat en notre faveur, hein, effectivement. Mais là, on a dû se débrouiller totalement en autonome, sans artillerie, sans hélico, sans avion de chasse pour se désengager. Tant bien que mal, on a réussi à rejoindre nos véhicules et on est rentré sur le COP au bout de, voilà, en gros, deux heures de combat, de 10h à midi. On est revenu sur le COP avec nos deux blessés afghans. J'ai découvert qu'il y en avait eu un troisième parce que dans les combats, un des soldats afghans, pour s'abriter, était tombé dans un wadi et s'était fracturé le fémur. Donc on s'est retrouvé avec
dans
deux...
Un wadi, c'est un petit ruisseau.
Oui, c'est ça, ouais, mais qui là était asséché à cette période de l'année. Mais effectivement, c'est un petit ruisseau, donc il est tombé dans un fossé au milieu de rochers, donc il s'est fracturé le fémur. Donc on s'est retrouvé avec trois blessés afghans.
Mais il a réussi à sortir quand même.
Non, ce sont ses camarades qui l'ont extrait, qui l'ont mis dans les véhicules afghans. Et ensuite, nous, sur le poste, c'est mon infirmier qui les a traités. Et pour finir, donc là, il est globalement midi. Ensuite, on a continué à être harcelé depuis notre poste de combat, mais là, on était revenu dans des positions plus défensives, derrière nos propres fortifications, entre guillemets. Donc, c'était plus simple à gérer, et la situation et la tension est redescendue. Elle est redescendue, donc déjà parce qu'on était revenu sur notre poste de combat, et aussi parce que mon infirmier, tout de suite, a porté un soin particulier aux blessés afghans, et donc a pu sauver les deux blessés afghans qui étaient gravement blessés, et puis celui qui avait la fracture du fémur, finalement, on l'a immobilisé, et on a pu...
Et qui était gravement blessé, parce que vous nous avez dit, c'est l'épaule et le bras, c'est parce qu'ils avaient perdu beaucoup de sang depuis les deux heures de combat.
Et puis l'un d'eux... Mon infirmier me disait que visiblement, il perdrait son bras, enfin, en tout cas l'usage de son bras, quoi. Mais bon, ça, après, au moins, on lui avait sauvé la vie. Eh bien non. Une fois qu'ils étaient stabilisés, et ça, c'est le dernier point sur lequel je voulais insister sur cette mission, on a réussi, à ce moment-là, à obtenir l'appui de deux Black Hawk américains, donc deux hélicoptères qui sont venus évacuer nos blessés afghans. C'était très rare. Moi, j'avais insisté, puisqu'entre-temps, j'avais récupéré la liaison, j'avais insisté auprès de mon colonel pour qu'on puisse bénéficier, ce qui ne se faisait pas habituellement, d'évacuer les soldats afghans par des moyens de la coalition. Généralement, ils étaient évacués par leurs propres moyens. Ils avaient aussi en autonome la moyen de se désengager en véhicule. Ils auraient pu se désengager en véhicule. On les aurait appuyés pour qu'ils se désengagent à travers la vallée et ensuite qu'ils soient évacués vers des hôpitaux afghans.
Deux ou trois heures de route avec un bras ou un fémur cassé.
Là, à ce moment-là, je me suis dit, quand bien même mon infirmier me disait « leur vie n'est plus en jeu », je me suis dit, j'insiste pour que des hélicoptères viennent les chercher, que ce soit des hélicos français ou des hélicos américains. Et j'ai eu raison, parce que c'est un des enseignements que je tire de cette mission, c'est l'impact psychologique du soin apporté aux blessés. Cette mission, elle avait été difficile à monter, je vous l'ai dit, il fallait convaincre, surtout les Afghans, d'y aller une énième fois. Si jamais j'avais pas réussi à évacuer leurs blessés par des moyens américains, par un hélicoptère qui les a emmenés directement à Kaboul se faire soigner dans des hôpitaux, je pense que le lien de confiance aurait été rompu. Alors moi, je partais quelques semaines après, mais on travaille toujours pour son successeur. Donc je pense qu'il eût été plus difficile pour mes successeurs de rétablir un lien de confiance. Là, ils ont vu que oui, on est allé dans une zone risquée. Oui, la mission était compliquée. Oui, comme prévu, finalement, les choses se sont passées de manière dure, mais on a toujours été là pour les appuyer. Alors bien sûr, les moyens, je vous en ai parlé, l'artillerie, les avions ne sont pas venus. Néanmoins, quand on a pu, on a fait intervenir des moyens dont eux ne pouvaient pas bénéficier initialement pour évacuer leurs blessés. Le soir même, les relations étaient quasi identiques à celles qu'elles avaient toujours été, c'est-à-dire une vraie relation de confiance. Alors, il n'y a jamais de confiance absolue, hein, il ne faut pas se mentir, on est des cultures diverses, et puis il y a eu des épisodes dans les OMLT qui ont montré qu'on ne pouvait pas avoir de confiance absolue. Mais au-delà de ça, il y avait quand même une vraie confiance de soldats qui se battaient entre eux, enfin qui se battaient les uns à côté des autres, contre le même ennemi. Et l'impact psychologique de la récupération de leurs blessés a été très fort. Véritablement. Et ça, aujourd'hui, ça se voit aussi encore dans l'armée française. Je veux dire, au Mali, nos soldats savent que s'ils ne sont pas mortellement blessés sur le coup, tout sera tenté pour qu'on les ramène le plus vite possible dans les hôpitaux, auprès d'un chirurgien. Et ça, c'était un impact très fort. Je m'en suis véritablement rendu compte à ce moment-là, à quel point les gens étaient prêts à s'engager. Si jamais ils s'imaginaient que tous les moyens seraient mis en œuvre pour les sauver s'ils n'étaient pas morts sur le coup.
Non, mais c'est intéressant parce que vous... Comment dire ? D'une part, oui, évidemment. Mais il y a des logiques différentes entre le fait d'évacuer ses blessés et d'évacuer les blessés des autres. Enfin, on en revient un peu vers ce que je vous dis, enfin ce dont on discutait au début, c'est-à-dire le fait que oui, mais si jamais les Afghans dépendent entièrement des armées occidentales pour évacuer leurs blessés, enfin, on perçoit que c'est un problème structurel de longtemps. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que ça se fait pas à chaque fois.
Bien sûr. Et effectivement, on ne voulait pas créer ce type de dépendance. Et les Afghans le savaient très bien que certains des moyens, on ne leur donnerait pas systématiquement. Mais cette fois-ci, très spécifiquement, dans le contexte particulier que je vous ai décrit, j'ai senti et j'ai insisté auprès de mon colonel pour que effectivement il demande des moyens aériens pour évacuer les blessés afghans, parce que j'ai senti que sinon le lien de confiance allait être vraiment rompu et que derrière les Afghans ils voudraient plus sortir. Ils diraient non mais c'est bon, c'est terminé. Et finalement c'est pour eux en fait hein, qu'on les obligeait à sortir et à se battre, c'est pour eux, pour leur pays. Mais je me suis dit il faut pas rompre ce lien de confiance et donc il faut leur montrer que ils ont fait des efforts particuliers pour s'engager dans une zone dure. Nous derrière, si on peut les aider à sauver leurs blessés, eh ben on va mettre le paquet à ce moment-là, en leur disant « ce ne sera pas à chaque fois ». Et bien sûr, ils le savaient très bien. Mais ils m'en ont vraiment... Ils m'ont remercié très chaleureusement le soir en disant « merci, merci d'être venu nous chercher, merci d'avoir déployé des hélicoptères pour sauver nos soldats ». Donc voilà, ça c'est le premier enseignement que je tire. Il y a quand même deux autres enseignements que je tire de cette expérience. La première, c'est que 6 mois, c'est long. Et que passer les premiers combats où on est effectivement, où la peur est très présente. Ensuite, au fur et à mesure des accrochages dont vous parliez, vous me dites oui, est-ce qu'un accrochage c'est quelques rafales, est-ce que c'est des gros combats ? On avait connu dans les 6 mois précédents de longs accrochages. On avait déjà vécu plusieurs heures sous le feu, on avait déjà eu des blessés français dans mon équipe ou des blessés et des morts afghans. Eh bien... Au bout d'un moment, quand vous vous en sortez tout le temps, vous avez naturellement un petit sentiment d'invincibilité. Alors vous êtes de plus en plus conscient du danger, mais en même temps, vous vous dites aussi, on va s'en sortir, finalement, il ne tire pas si bien que ça en face. Et vous développez des mécanismes psychologiques qui vous disent que ça va aller. Dernier jour, dernière mission, quelques jours après, j'étais désengagé, et c'était l'un des moments les plus difficiles à gérer. La peur est revenue très présente. Je veux dire, le soir, j'en ai parlé avec mes hommes, on a tous eu très peur. On a tous eu très peur et on s'est dit, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'était le dernier jour, alors qu'on était extrêmement expérimenté à ce moment-là, qu'on connaissait parfaitement notre ennemi, parfaitement le terrain, qu'on était à quelques centaines de mètres de notre poste de combat, qu'on avait un armement largement supérieur à l'ennemi d'en face. Donc ça, c'est le deuxième enseignement que je tire. Et le troisième...
Cette appréhension du moment où on arrive et on ne sait pas où on met les pieds, il y a quand même une sorte de bon sens là-dedans aussi qui peut s'effacer doucement, quoi.
Oui, voilà, effectivement, peut-être ce sentiment que finalement, le combat, ça va, on commence à maîtriser, et on est un peu grisé par tout ça, et on commence à se sentir un peu, je vous dis, invincible, un petit peu, ce sentiment, il se développe, quand bien même, on sait toujours au fond de nous qu'on a eu de la chance, que ça peut nous arriver à chaque moment, qu'un IED, c'est juste de la chance, parfois, quand on le découvre au bon moment et qu'on ne saute pas dessus. Mais voilà, le dernier jour, et ça, c'est peut-être le dernier enseignement, et je voudrais terminer là-dessus, c'est l'humilité. Je me suis dit, il y a peut-être un signe, il y a quelque chose qui nous dit, rentrez en France, très humble. ce que vous avez vécu, finalement, ça aurait pu se terminer...
Vous n'étiez pas les rois de la vallée.
Ça aurait pu se terminer à quelques centaines de mètres du COP sur une dernière mission. Donc, véritablement, l'humilité, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est... C'est pour ça que finalement, vous me disiez qu'il y a beaucoup de soldats français qui aiment bien raconter des histoires. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que on développe une carapace et une forme d'humilité qui fait qu'on n'a pas véritablement envie de se livrer et de raconter nos histoires. Moi, c'est la première fois en 10 ans que je parle aussi librement et naturellement pendant quelques minutes avec vous de l'Afghanistan. On en parle assez peu entre nous. Alors, bien sûr, il y a quelques camarades qui ont vécu les mêmes choses que moi, mais on en parle assez peu. Et donc, cette humilité, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de très, très important, puisque nous, on est réengagés ensuite sous le feu. Et finalement, cette expérience du combat, elle est essentielle individuellement pour se connaître, savoir comment on peut réagir, mais aussi pour savoir que c'est pas parce qu'on a bien réagi le premier jour que le deuxième jour, on va mieux réagir, moins bien réagir, on ne sait pas. Les circonstances sont toujours exceptionnelles et fluctuantes. Donc il faut faire preuve, je crois, d'une grande humilité face à ces expériences que l'on a pu avoir.
Non, mais simplement, je vais faire une insiste là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent aux officiers avec qui je vais enregistrer un dans le viseur, que les militaires aiment bien raconter l'histoire. C'est vrai que c'est pas toujours vrai. De ce que j'en ai vu, ça dépend beaucoup à la fois des expériences, ça dépend beaucoup des armes, ça dépend beaucoup des corps aussi. Et ça dépend, je crois, aussi beaucoup des premiers commandements. Enfin, je crois qu'il y a un truc. Enfin, j'ai cru voir qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est-à-dire les il y a quelque chose. Les supérieurs transmettent ou pas une relation au récit et à l'expérience et à la transmission d'expérience. Mais d'une manière générale, c'est aussi ce qu'on fait ici, c'est une forme très très lâche de rétexte, de retour d'expérience, qui fait entièrement partie de la vie des tâches du militaire. Simplement pour terminer, vous avez vécu donc 6 mois avec une compagnie afghane.
Oui.
Vous avez gardé des contacts de... Enfin, je ne sais pas si vous envoyez des cartes postales pour les fêtes de fin d'année, probablement pas. Mais c'est-à-dire, vous savez ce qu'ils sont devenus? Vous avez parlé à vos successeurs pour savoir comment la mission a évolué?
Eh bien, assez peu. Vous voyez, et c'est quelque chose que je regrette quelque part. Alors, avec les soldats afghans ou avec le capitaine afghan, c'était difficile quand même de garder des liens. Au début, je m'étais promis de garder des liens avec mes interprètes. Mais finalement...
Par ailleurs que la situation des interprètes en Afghanistan a souvent été difficile, voire très difficile.
Oui, effectivement, c'est un sujet sensible, effectivement, qui est traité au plus haut niveau. Donc au départ, je m'étais dit que je garderais des liens avec les deux interprètes que j'avais eus, qui avaient fait chacun 3 mois avec moi et qui avaient risqué, eux, leur vie à mes côtés pendant plusieurs mois. Mais finalement... Le cours des choses a fait que non. Alors j'ai suivi un petit peu la situation de la compagnie, parce que je sais que donc 6 mois après mon départ, ils ont été le flambeau a été transmis aux Afghans, et donc c'est eux qui ont eu la responsabilité de ce COP. Et il n'y avait plus de Français avec eux. Ils étaient en parfaite autonomie sur ce poste de combat. Après, qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis? Non, je n'en sais rien du tout. J'ai perdu malheureusement tout contact avec eux et avec les interprètes. Donc, j'ai pas suivi l'évolution spécifique.
Malheureusement ou heureusement, c'est un truc aussi. Vous êtes déployé pour un certain temps pour remplir une certaine mission. C'est peut-être aussi pas. Enfin, c'est peut-être aussi une logique sur ne pas vous donner des mises à jour en temps réel 6 mois après. Quoi. Enfin,
voilà,
c'est bien que ça se termine aussi. Quoi.
Oui, je suis reparti sur d'autres missions. Puis après, il y a peut-être un mécanisme psychologique qui se met en marche et qui dit, bon, il faut tourner la page parce que sinon on ressasse les souvenirs, les bons comme les mauvais. Et donc il y a sans doute un mécanisme psychologique qui fait que, bon ben voilà, la page elle est tournée. Moi j'ai servi qu'une seule fois en Afghanistan, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Donc l'Afghanistan, ben voilà, c'était il y a 10 ans. J'en ai retenu, comme vous pouvez le constater, beaucoup, mais j'ai aussi tourné la page et je passe pas ma vie à ressasser mes souvenirs de combat sur l'Afghanistan, ni même à me poser la question de que sont devenus ces soldats, et même si je suis géopolitiquement la situation en Afghanistan, mais très spécifiquement la situation de cette compagnie.
C'est pas la partie la plus encourageante au quotidien. Merci beaucoup, commandant Sébastien.
Merci à vous.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.